qu'on va un peu plus loin que la simple lecture qu'on donne aux gens. C'est-à-dire remplaçons le nucléaire par du vent et c'est super bien. Dès qu'on gratte un peu tout ça, on se rend compte que derrière, il y a de sacrés aspects négatifs, et y compris au niveau de l'environnement.
Le tarif d'achat, c'est la solution qui a été la plus communément adoptée dans toute l'Europe. Donc ça a quand même prouvé son succès. Et en France, ça a quand même permis de créer 10 000 emplois en seulement 10 ans. Le bilan est plutôt positif.
C'est un non-sens parce que depuis l'année 2000, le système électrique est aujourd'hui libéralisé. Et puis là-dessus, vous introduisez des énergies renouvelables qui sortent du jeu du marché.
On s'est pris à rêver d'une source d'énergie gratuite, inépuisable et non polluante, bâtie sur le vent. Mais cette technologie de l'éolien pose bien des questions. Est-elle d'abord si propre? On dit qu'une éolienne fonctionne 12 à 40% seulement du temps. Quand elle est à l'arrêt, il faut la chauffer parfois, chauffer les pales avec de l'électricité normale qui émet du CO2. Certains dénoncent aussi la pollution sonore ou visuelle de ces géants. La filière éolienne est-elle ensuite source d'emploi? Le gouvernement l'assure, 10 000 postes créés, les opposants parle de quelques centaines seulement et souligne que ce sont les Allemands et les Danois qui fabriquent ces moulins à vent géant. Le secteur serait aussi sous perfusion, maintenu à bout de bras par des subventions exorbitantes. C'est un marché qu'on peut qualifier en tout cas de captif. La production d'électricité éolienne est rachetée obligatoirement par EDF à un tarif fixé par l'État, tarif jugé excessif par les opposants bien sûr, mais aussi par la sérieuse commission de régulation de l'énergie. Des fortunes, dit-on, se sont faites grâce à cette manne. Une manne prise en partie dans les poches des consommateurs, puisqu'quand EDF finance l'achat obligatoire de ces énergies renouvelables par une taxe prélevée sur nos factures, la fameuse CSPE, contribution au service public de l'électricité, qui pesait tout de même 6 milliards d'euros en 2012. À cela s'ajoutent des soupçons qui éclaboussent les élus locaux, le service central de prévention de la corruption alerté en juillet dernier le gouvernement parlant de nombreux cas de prise illégale d'intérêt, des plaintes contre les élus ont même été déjà porté devant les tribunaux et quelques condamnations sont tombées. L'éolien français vent contraire sur le marché de l'air, c'est une enquête signée Anne-Laure Choin. Alors pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes avec Ludovic Grandjean qui est enseignant à l'ESC Lyon, l'école de commerce. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous avez dirigé aussi la Compagnie Générale des Eaux dans le sud-est de la France. Vous avez été membre de l'AFNOR, Agence Française de Normalisation. Vous vous intéressez de près depuis longtemps aux énergies renouvelables. Et j'ajoute que vous êtes en duplex de Lyon. J'en profite pour remercier nos collègues du bureau de Lyon pour assurer cette liaison. Et puis nous sommes ici en studio avec Damien Maton. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général du CER, le syndicat des énergies renouvelables. Vous représentez les professionnels donc du secteur. Et nous sommes avec Anne-Laure Choin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Tara.
Vous avez commencé par enquêter, Anne-Laure, sur cette corruption des élus que j'évoquais à la fin de ma longue introduction.
Oui, le scandale avait été révélé en juillet dernier par plusieurs journaux et j'avais à l'époque contacté des interlocuteurs pour tenter d'y voir plus clair. Parmi eux, les plus remontés contre l'éolien, car la spécificité de ce sujet, c'est qu'il est extrêmement clivant. On le verra sans doute à l'issue de ce reportage. Ces gens-là donc m'avaient alerté sur ce modèle économique contesté. Alors je précise que j'ai abordé le sujet sans préjugés, sans être pro ni anti-éolien, simplement en soupçonnant que peu d'auditeurs devaient connaître le fonctionnement de cette filière du vent, promue et connue sous le nom de renouvelable, un terme qui a bonne presse. La production éolienne française représente aujourd'hui un peu moins de 4% du total de la production électrique, avec un peu plus de 4000 éoliennes installées sur le territoire. Le ministère de l'écologie affiche des objectifs très ambitieux, arriver à 10% d'énergie éolienne d'ici quelques années, et pour cela, le projet de loi sur la transition énergétique voté très récemment par les parlementaires va notamment simplifier les procédures de mise en place des nouveaux parcs éoliens. Et puis Ségolène Royal mise gros sur les éoliennes offshore en mer. Donc, j'ai donc souhaité savoir comment fonctionnait ce marché de l'air. Précision utile, il fut très compliqué de parler aux gros producteurs éoliens implantés en France. Un seul a souhaité me recevoir. Ce sera le seul que vous entendrez dans ce reportage.
Alors Anne-Laure, vous avez commencé votre enquête en Auvergne, dans la dans un petit village de 150 habitants qui s'appelle La Prugne, où le maire Jean-Dominique Barrault a vu d'un très mauvais œil s'implanter 8 éoliennes au sommet d'une colline toute proche de chez lui.
On est sur la commune de La Prugne, à 35 km de Vichy. Sur une carte, vous regardez, c'est le confin de la Loire, le Puy-de-Dôme et l'Allier. mais dans l'Allier.
Un paysage magnifique.
Un paysage magnifique, avec des bois, des points de vue, un rocher qui est inscrit au ministère de la Culture, et les éoliennes.
Et alors ça se voit de tout le... combien de kilomètres à la ronde?
Ah bon, on les voit du sommet du Puy-de-Dôme, avec l'éclairage. On les voit à 50 km à la ronde. Donc au départ, ils disaient, un parc paysager, il n'y en a pas. Il se trouve que c'est sur une butte, on les voit partout. L'idée en elle-même, moi je ne suis pas contre l'éolien, si on peut faire d'énergie propre. Mais le problème, c'est de faire de l'électricité. Et on s'aperçoit que, malgré les investissements, malgré une technique bien faite, au niveau production, ça tourne 12,5% du temps, pas plus. Attendez, c'est ça.
L'une des éoliennes au pied desquelles nous nous trouvons est en travaux. Une pale de 10 mètres de long est en train d'être montée à l'aide d'une grue. Elle va remplacer la pale initiale qui gèle lorsque les températures descendent, ce qui arrive assez fréquemment dans cette région de moyenne montagne.
Vous savez s'il y a souvent des problèmes techniques comme ça ?
Souvent oui, parce qu'il y a souvent les équipes d'entretien qui viennent. Et il y a encore le mât de mesure que vous voyez. Donc, à mon avis, ils réussissent pas trop à régler, parce qu'il n'y a pas assez de vent, tout simplement.
Bonjour.
Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser sur le chantier.
C'est interdit au public ?
Ah ben, je suis désolé, je ne peux pas quand même. On est en train de... D'accord.
C'est interdit au public ?
Ben, le truc, c'est qu'il y a une pale qu'on est en train de se démonter, il y a de la boulonnerie et tout, vous avez ni casque, ni pont, enfin, je peux pas, quoi. Là, si vous arrive quelque chose, moi, c'est menottes, prison. Là, en étant là, ça pèse 8 tonnes, ils sont en train de la démonter. Ça tombe, ça explose, vous, c'est terminé. Nous, on est couverts par la cible.
Ce n'est pas chauffant, ça.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Ça marche comment?
Eh bien, attendez, viens, venez, on va s'évacuer de là.
Elle est fermée?
Ouais, elle est fermée, mais je vais leur montrer du...
Le but, c'est d'éviter que ça gèle?
Ouais, exactement, parce que en fait, si vous voulez, donc là voilà, on a le connecteur, il y a des gros chauffages soufflants à l'intérieur avec une résistance qui envoie de l'air chaud dans la pale l'hiver. Quand il y a de la glace qui se forme sur les pales, ça crée un déséquilibre de poids, et du coup, en fait, la machine le détecte et s'arrête. Et donc, c'est dommage, pendant ce temps-là, elle ne produit pas d'énergie, quoi. Donc là, ils ont décidé de changer les pales pour remettre ces pales-là à la place. Donc voilà, il y a un gros connecteur, tac, ils viennent se connecter, il y a des gros chauffages.
Et quand ça produit, il faut quelle vitesse de vent ?
Minimum, je crois qu'elle tourne à 3 mètres secondes. Donc vous êtes à 10 km/h, elle commence à produire, quoi. On ne doit pas être loin là d'ailleurs. On est à la limite qu'elle s'arrête parce qu'il n'y a pas assez de vent, quoi. Donc là, on doit être à pas loin de 10 km/h. Bah, ici, il n'y a pas beaucoup de vent.
Il n'y a pas de vent.
Ouais, très peu de vent.
C'est pour ça que je pense que ça fait ici.
Pas de vent, donc, de l'aveu même des opérateurs de maintenance que nous avons rencontrés. Un argument balayé par Frédéric Lanoé. Il dirige l'activité en France d'un groupe portugais, EDPR, quatrième opérateur éolien mondial, soutenu par des fonds chinois mais aussi qataris. Il est aussi le président de la FE, France Énergie Éolienne, qui regroupe la plupart des acteurs industriels de la filière en France. Frédéric Lanoé, seul acteur d'importance de la filière qui est accepté de nous parler au micro, on le rappelle. Il explique comment se fait le repérage des sites éoliens.
Il y a des schémas régionaux. Et ces schémas, ils ont été faits par le préfet, avec la région, avec les citoyens, et ils déterminent des zones d'exclusion. Comme par exemple, évidemment que le Mont-Saint-Michel, on ne va pas mettre des éoliennes autour. Ils ont dissocié, ils ont identifié des zones d'interdiction et des zones favorables. On cherche dans ces zones réputées vertes, et à partir de là, on regarde, le premier point, c'est le gisement de vent, évidemment. La spécificité de l'éolien, c'est que le vent est beaucoup plus abondant lorsqu'on a besoin de plus d'électricité, c'est-à-dire en hiver. Il y a à peu près, les éoliennes produisent 50% en plus en hiver qu'en été, ça tombe bien, parce qu'on a beaucoup de chauffage électrique en France. Une autre spécificité, c'est évidemment le fait que l'éolien libère le territoire. Donc c'est un complément de revenu très conséquent pour les agriculteurs, par exemple. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, par exemple, les agriculteurs ont pu se passer de subventions liées à l'agriculture, etc., parce qu'ils avaient un complément de revenu lié à leur terre. Et c'est un complément de revenu qui permet à tous ces gens de cultiver au pied de l'éolienne.
Une promesse de revenus pour les agriculteurs et pour les collectivités locales, mais des méthodes mal vécues si ce n'est contestées par d'autres édiles. C'est le cas de Pascal Poncet, maire d'une petite commune située à quelques kilomètres de La Prugne, mais de l'autre côté de la frontière auvergnate, en Rhône-Alpes, dans la Loire. Le village de Saint-Just-en-Chevalet pourrait voir apparaître un parc éolien tout proche, dans la zone préservée des Bois Noirs. Une enquête publique est en cours, et si au départ la population a vu arriver ce projet d'un bon œil, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis donc allée rencontrer à Lyon, là où il travaille, Pascal Poncet, le maire de Saint-Just-en-Chevalet.
Ce que moi je peux dénoncer, c'est qu'effectivement entre l'idée de faire et l'enquête publique qui a lieu aujourd'hui, les populations concernées, notamment celles qui sont en toute proximité, ont été de fait tenues à l'écart. Il y a eu une réunion publique entre-temps, à ma connaissance, où on nous présentait des documents extrêmement sommaires, vous voyez, de type A4, comme dans une salle de classe pendue sur un fil de pêche, quoi, vous voyez le truc, avec trois photos dessus, enfin, pas du tout à la hauteur des 30 ou 40 millions d'investissements qui nous étaient annoncés. Au point même que les gens aujourd'hui ne savaient encore pas où se situe très exactement le projet et où sont les éoliennes. On est dans un rapport de privé à privé, c'est-à-dire vous avez l'investisseur qui arrive avec toute sa puissance et qui vient frapper à la porte de Madame Dupont ou de Monsieur Durand, qui leur dit « vous ne seriez pas intéressé parce qu'on voudrait mettre une éolienne chez vous ». Et ça vous rapportera tant par mois. Vous voyez que là, et en fonction aussi peut-être des gens qu'on rencontre, on peut avoir la naïveté ou la fragilité. Je ne sais pas comment se passe ce type de débat, moi je n'en sais rien. Mais malgré tout, on peut avoir des craintes sur la façon dont les choses sont faites. La puissance de l'État sur l'énergie devrait être beaucoup plus présente à ce niveau-là. Moi aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion que les raisons techniques passent au second plan par rapport aux raisons économiques et financières des groupes en question, si vous voulez. Et moi, j'en suis arrivé à une conclusion qui est peut-être la mienne et qui, enfin, d'autres la partagent. C'est que le critère de docilité des territoires est fortement mis en avant dans les critères de choix des régions des investisseurs.
Alors, docilité, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oh, je veux dire qu'effectivement, lorsque vous avez une population peu dense, que vous avez une population qui n'a pas l'habitude de la revendication, quand vous avez une population qui cherche plutôt à passer ses journées à travailler, à s'occuper du quotidien de chaque personne, etc., un peu le nez dans le guidon, et une population qui a encore une fois peu d'habitude à la revendication, eh bien c'est plus facile d'aller implanter un projet, j'allais dire, d'une manière non tumultueuse de la part de l'investisseur en question. D'accord. Je pense que ça, pour moi, ça a été un des critères de choix. Peut-être, j'ai aucun élément pour vous dire ça, mais je le ressens comme ça. Pour caricaturer, j'allais dire qu'à Saint-Tropez, c'est plus compliqué. Voilà. Que dans les Bois Noirs. Dès qu'on va un peu plus loin que la simple lecture qu'on donne aux gens, c'est-à-dire remplaçons le nucléaire par du vent et c'est super bien, dès qu'on gratte un peu tout ça, on se rend compte que derrière, il y a de sacrés aspects négatifs, et y compris au niveau de l'environnement.
La docilité des territoires, autre argument réfuté par le promoteur, on retrouve à Paris Frédéric Lanoë.
Ce qui est important, c'est la concertation. Lorsque les contraintes techniques sont 500 mètres aux habitations, par exemple, hein, c'est dans la loi, on ne doit pas se rapprocher trop, les zones militaires, etc., ben on arrive quand même à des zones très réduites, et il y a une prise de contact avec les élus, donc les maires, etc., parce que ben, il faut bien commencer quelque part, et il est évident que si un maire n'en veut pas, on ne va pas aller contre lui. Et puis ensuite, il y a des appels aux agriculteurs qui accueilleront les éoliennes. Il y a des séances de concertation en mairie, conseils municipaux, etc., pour approuver le projet. Tout le monde va donner son avis, l'architecte des bâtiments de France, etc. Et à la fin, c'est le préfet. Ça, c'est important parce que c'est pas le maire qui décide ou l'agriculteur, c'est le préfet. Il peut y avoir des recours. Le droit français est mal fait, il faut réformer sur ce point-là, parce qu'actuellement, un projet qui n'est pas voulu par 1% de la population, mais voulu par 99%, peut être bloqué. Il finira par sortir, mais ça va prendre 3, 4, 5, 6 ans.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront...
Mais le principal argument opposé aux acteurs de la filière, il est économique. C'est cette obligation d'achat fixée par un arrêté tarifaire, reconduit sans changement depuis 2006, qui oblige les opérateurs historiques d'électricité, EDF en l'occurrence, à racheter très cher, deux fois le prix de l'électricité nucléaire, la production éolienne. Le marché de l'éolien est donc sans risque et sa rentabilité très élevée. La Commission de régulation de l'énergie, la CRE, autorité indépendante qui veille au bon fonctionnement des marchés de l'électricité, a soulevé ce point dans un rapport d'avril dernier. Christine Lavarde est responsable du département énergie renouvelable à la CRE.
La CRE étudie la rentabilité des installations éoliennes au regard du coût moyen du capital des sociétés qui investissent dans le domaine des énergies renouvelables, sachant qu'on prend en compte le fait qu'il y a une garantie de vente de la production. C'est-à-dire que tous les producteurs qui bénéficient d'un mécanisme de soutien, que ce soit l'appel d'offres ou l'obligation d'achat, sont certains de pouvoir vendre à un prix garanti toute leur production. Donc c'est une activité sans risque. Donc c'est pour ça qu'on retient un coût du capital autour de 5%. Et donc on a regardé la rentabilité des projets à l'aune de cette référence de 5%. Et on a pu constater que certaines installations bénéficient d'un taux de rentabilité après impôt qui était supérieur à 10%. Enfin, surtout quand on parle d'un taux de rentabilité après impôt et en plus dans une activité sans risque. On a qualifié ça, nous, d'excessif.
Excessive la rentabilité des producteurs éoliens, pas tant que ça, réfute à nouveau le dirigeant français d'EDPR.
On était très étonnés des conclusions, ne serait-ce qu'à la lecture du rapport. Mm-hmm. Parce que dans ce rapport, il est écrit que 60% des parcs ont des rentabilités inférieures à 5%. Et malgré ça, la CRE dit que les rentabilités sont excessives. Pourquoi ? Parce qu'elle considère les 10% de parcs qui ont énormément de vent et qui ont effectivement une rentabilité supérieure. Mais moi, producteur éolien, j'en ai 30 des parcs. Est-ce que vous croyez qu'ils sont tous à la rentabilité maximale ? Pas
non,
du tout.
C'est ils sont en comparaison au risque initial.
Ah oui, mais vous savez...
Puisque la production est achetée obligatoirement.
Le risque initial, je vais vous l'expliquer. C'est que moi, entrepreneur, je dois payer des ingénieurs. Vous les avez vus aujourd'hui. Ça nous coûte à peu près 200 à 300 000 euros de développer un parc. Et ça prend jusqu'à 10 ans, parfois. Et pour en réussir... il faut plutôt en mettre en développement 2 ou 3, parce que forcément, il peut y avoir des impondérables. Donc le risque entrepreneurial, il est bien là. Et pour quel gain, l'étude de la CRE l'a montré, des taux de rentabilité qui sont pour la plupart inférieurs à 5%. Donc c'est pas si juteux que ça, et ça met à peu près 10 ans à être rentabilisé un parc éolien.
Quant à la captivité de ce marché, dû au fait que tout mégawatt éolien produit est un mégawatt acheté au prix fort, là encore, c'est nécessaire, estime Frédéric Lanoë.
Le tarif d'achat, c'est la solution qui a été la plus communément adoptée dans toute l'Europe et qui a permis aux Allemands d'arriver à un taux éolien de 10% de leur mix électrique, aux Espagnols de 20%. La France en est encore à 4%. D'accord ? On est le petit poucet au niveau européen en termes de pénétration de l'éolien. Donc ça a quand même prouvé son succès. Et en France, ça a quand même permis de créer 10 000 emplois en seulement 10 ans et d'amener l'éolien à ce qu'il est, c'est-à-dire... Au premier semestre de cette année, éolien et solaire ont produit plus que toutes les centrales à flammes combinées. Donc le bilan est plutôt positif. Alors bien sûr, ça c'est le côté bénéfice. Il faut voir les coûts. Vous avez raison, hein, l'étude coût-bénéfice.
C'est nous qui le supportons,
voilà.
Nous payons notre facture.
Exactement. C'est via une petite ligne sur vos factures qui s'appelle la CSPE. C'est à peu près 17% la CSPE du coût d'une facture. Et là-dedans, vous n'avez que 10% qui est lié à l'éolien. Ça, faut bien le rappeler. Donc c'est une part infime, tellement infime que ça a coûté aux ménages français en 2014 4 euros par foyer, c'est ce que vous et moi, on a payé pour l'éolien français. Donc il faut quand même se poser la question, on a réussi à créer 11 000 emplois, à développer un marché d'1,5 milliard d'euros et à prendre rang au niveau de la chaîne de production mondiale. Est-ce que c'est si cher que ça ? Moi je ne pense pas. C'est juste la reconnaissance du fait que oui, ces énergies apportent au climat. Oui, ces énergies sont des choix stratégiques aussi. Et on leur met un peu le pied à l'étrier. C'est un peu de la discrimination positive. Alors, combien de temps ça doit durer ? C'est la question. Et comment ? On a eu 3 années difficiles. Et cette année, on devrait construire plus de 30% d'éoliennes à nouveau. C'est aussi le fruit d'un certain nombre de verrous que ce gouvernement a levés. Il ne faut surtout pas apporter un coup de frein. Tout changement, c'est un coup de frein.
Une filière qui doit continuer d'être soutenue sous peine de manquer la révolution écologique et un soutien financier qui certes pèse sur le consommateur mais qui reste raisonnable. Voilà en résumé l'argumentation des promoteurs de l'éolien en France. En cherchant à m'informer sur le sujet, un nom puis un groupe sont revenus à plusieurs reprises. Le nom c'est celui de Paris Mouratoglou qui a construit une grande partie de sa fortune, plusieurs centaines de millions d'euros sur les énergies renouvelables. Le groupe c'est EDF Énergie Nouvelle, filiale d'EDF. dont la création a été suscitée par ce même monsieur Mouratoglou, qui a ensuite revendu ses parts à la maison mère avant de créer une holding financière au Luxembourg. Cet homme, qui fut l'acteur le plus important de la filière il y a quelques années, a bien voulu nous recevoir après des demandes répétées d'interview, mais en off, sans micro. Et dans son bureau parisien près des Champs-Élysées, il nous a expliqué de façon très claire et très franche que oui, la filière éolienne était extrêmement rentable, que sa fortune personnelle avait été effectivement bâtie sur ces énergies dites propres en France, mais surtout à l'étranger. Plus intéressant, selon lui, l'activité éolienne en France tient en partie d'une mode. Elle s'écroulerait si les subventions, cette fameuse obligation d'achat, s'arrêtaient. Nous aurions aimé avoir là-dessus l'avis du dirigeant actuel d'EDF Énergie Nouvelle, Antoine Cahuzac, frère de Jérôme Cahuzac, malgré nos demandes faites très en amont. Pourtant, cela n'a pas été possible. Les chiffres en attendant sont sans appel. La CSPE, que payent donc tous les Français et qui n'est pas proportionnée aux revenus, est estimée pour 2014 à 6 186 millions d'euros. La moitié permet à EDF de racheter l'électricité produite par le renouvelable, en majorité l'éolien, un business model que certains qualifient d'absolu non-sens économique. Pour avoir une vision équilibrée de la question, je me suis donc rendue à France Stratégie, l'ancien commissariat au plan, un organisme dépendant de Matignon, une officine gouvernementale donc.
D'accord. Très bien, merci beaucoup.
France Stratégie, où Étienne Baker, en charge des questions énergétiques, a collaboré à un rapport sur la crise du marché électrique européen. Une crise liée, selon lui en partie, à l'introduction des énergies renouvelables et donc de l'éolien sur le marché de l'énergie.
Bonjour.
C'est un non-sens parce que depuis l'année 2000, en France en tout cas, et en Europe, le système électrique est aujourd'hui libéralisé. Donc vous avez des producteurs qui sont en concurrence, donc le nucléaire est en concurrence avec le charbon, avec le gaz, avec s'il en reste des centrales à pétrole. Et puis là-dessus, vous introduisez des énergies renouvelables qui sortent du jeu du marché. C'est-à-dire qu'elles sont rémunérées à l'avance par le tarif d'achat que vous avez peut-être évoqué au cours de votre émission. Donc les producteurs d'énergie éolienne ou d'énergie solaire sont rémunérés à l'avance pour les kilowattheures qu'ils fournissent. Et ce, quel que soit le besoin, quelle que soit la quantité qu'ils fournissent. En plus, ils sont prioritaires sur le réseau. C'est-à-dire qu'on considère que c'est de la bonne énergie, entre guillemets. Donc, c'est de l'énergie qu'on fait passer en priorité sur le réseau. Donc, vous avez la coexistence de producteurs qui sont hors marché, qui sont rémunérés sur tarif d'achat, et de producteurs qui sont en concurrence. Donc, vous défavorisez les producteurs qui sont en concurrence. Et aujourd'hui, ces producteurs comme GDF Suez, RWE en Allemagne, E.ON, qui sont en grande difficulté. Rien que pour prendre l'exemple de GDF Suez, GDF Suez a déprécié 15 milliards d'actifs cette année. 15 milliards d'actifs, c'est-à-dire de centrales qui ne sont plus rentables parce qu'elles n'ont plus leur place sur le marché. Elles ont été poussées dehors par ces énergies.
La question qu'on se pose, c'est d'une part, pourquoi l'État, le gouvernement, les politiques s'enferment visiblement quand même dans ce système-là. On l'a vu avec la dernière loi de transition énergétique. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la recommandation que vous préconisez? Est-ce qu'il faudrait arrêter de subventionner finalement ces énergies?
Le problème des énergies renouvelables, encore aujourd'hui, c'est qu'elles sont trop chères. Donc si on considère qu'il faut les développer pour un tas de raisons qui peuvent être bonnes, il faut les aider. Donc la question, c'est plutôt comment les aider si on veut qu'elles se développent. La nouvelle loi, ce n'est pas des directives, c'est des lignes directrices européennes, pousse à ce que les énergies renouvelables aujourd'hui soient de plus en plus intégrées au marché. C'est-à-dire que les producteurs d'énergie renouvelable ne soient plus garantis à 100% d'être rémunérés pour leur énergie, quoi qu'il se passe. Donc il faut qu'ils soient un petit peu attentifs à ce qui se passe sur le marché et qu'ils ne produisent pas. Par exemple, quand les prix sont négatifs, sur les marchés de gros de l'électricité aujourd'hui, vous avez des périodes où le prix est négatif. C'est-à-dire qu'on vous paye pour prendre de l'électricité. Mais il est bien évident que dans ces périodes-là, si vous continuez à produire, si vous avez du vent, vous continuez à produire, ça n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est de pousser et que doucement les producteurs d'énergie renouvelable soient incités à produire en fonction des besoins et en fonction des prix de l'électricité sur les marchés de gros.
Donc de fait, pour résumer, on a quand même créé, comme à l'époque avec le solaire, pour l'éolien là, une situation pour certains acteurs de la filière de rente.
Le problème du tarif d'achat, c'est qu'il est, il est très intéressant pour lancer une filière qui démarre. C'est-à-dire que vous garantissez un revenu à des producteurs, donc vous lancez une filière très facilement. À un moment, quand les volumes sont trop grands, vous générez forcément des situations de rente.
Voilà, vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, éolien français, vent contraire sur le marché de l'air. Enquête signée Anne-Laure Chouin, réalisée par Meta Chiteya. Nous sommes toujours par téléphone, enfin plutôt en duplex avec Ludovic Grandjean et ici en studio avec Damien Maton et avec Anne-Laure. Monsieur Maton, un mot peut-être d'abord à vous, à la défense entre guillemets quand même du secteur éolien. On vient d'entendre par exemple cet expert qui travaille pour Matignon parler quand même de non-sens économique, de dire qu'on a créé une situation de rente. Comment défendez-vous le modèle économique sur lequel est assis ce qu'on a appelé le business de l'éolien ?
Alors, il y a deux éléments qu'on peut dire en réponse à ces propos. C'est, le premier, c'est que le niveau de soutien n'est pas aussi élevé que certains le soulignent. On est à 82 euros le mégawattheure. Alors, on nous dit le marché est à 40 euros. Donc, ça fait deux fois supérieur. Mais il n'y a aucun investissement aujourd'hui dans l'énergie qui se fait sur le prix du marché, parce que le prix du marché est déprécié, en particulier à cause de la crise économique. Et si on fait du neuf, quel que soit le type d'énergie, avec du fuel, avec du gaz, avec du nucléaire, on sera aux alentours de 80 euros. Donc le neuf a un coût. Et pourquoi il faut faire du neuf ? Bah, tout simplement parce que l'ancien, le parc existant, est en train de vieillir et qu'on atteint, pour certaines centrales, 30-35 ans. Donc il faut penser l'avenir, il faut remplacer le parc existant. Et on a plusieurs solutions, hein. Il ne s'agit pas de remplacer l'existant par que de l'éolien, mais l'éolien est une solution adéquate. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, on nous dit il n'y a aucun risque, mais
pour les industriels, quoi.
Pour les industriels, marché, mais oui. Frédéric Lannoy a rappelé à juste titre qu'il y avait un risque développement, mais il y a aussi un risque technologique. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait des casse-machines sur 15 ans ou 20 ans de durée de vie. Donc, partir du principe que l'investissement nécessite un taux de retour sur investissement de 5%, c'est absolument pas absurde au regard des différents risques qu'on a identifiés.
On va donner la parole à Ludovic Grandjean. Peut-être d'abord, Monsieur Grandjean, sur le prix d'achat, sur ce tarif de 82 euros qui est jugé quand même excessif, même par la Commission de régulation de l'énergie, et que Monsieur Maton défend. Qu'en pensez-vous ?
Alors, bonsoir.
Bonsoir.
La CSPE atteint quand même un niveau intolérable pour un certain nombre de ménages. Réfléchissez qu'au moment des fêtes, contrairement à ce qui a été dit, ce sont 150 euros qui vont être soustraits des budgets des ménages concernant des jouets, une sortie loisir, pour les ménages les plus modestes, hein, ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu et qui vont donc voir ce budget filer sous leurs yeux pour un certain nombre d'intérêts plus ou moins obscurs.
Alors, excusez-moi, la CSPE, on rappelle donc, c'est cette petite ligne sur la facture d'électricité qu'on acquitte tous, et c'est cette taxe qui finance pour EDF le rachat de l'énergie éolienne. Alors, je vous en prie, continuez. Voilà. Oui.
Cette petite ligne, d'ailleurs, qu'on a tenu longtemps à rendre suffisamment discrète pour que personne la remarque, et que il faut souligner, ce sont des actions justement déjà exercées à ce niveau-là qui ont permis de la rendre évidente, parce que tout avait été fait pour qu'elle ne soit pas évidente. Je rappellerai en plus qu'actuellement, elle est artificiellement minorée, puisqu'il y a un stock de dettes de la trésorerie d'EDF de 4 milliards envers l'État, qui pénalise d'ailleurs autant le déficit au niveau de la Commission de Bruxelles, et qui minore actuellement le vrai niveau de la CSPE, qui devrait encore être plus élevé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission de régulation de l'énergie. Donc, elle est encore artificiellement minorée, bien qu'elle atteigne déjà un niveau insupportable.
Alors, on parle quand même du prix d'achat, si vous voulez bien, des 82 euros qui sont fixés par le gouvernement, et un certain nombre d'observateurs estiment que c'est trop élevé. Vous-même, qui regardez ce marché, vous en pensez quoi ?
Alors 82 euros, je reprends l'argument de Monsieur Maton, il compare tout projet neuf dans l'énergie, mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'on compare un cheval et une alouette, puisque les 82 euros qui sont cités dans le cadre d'un projet neuf de l'énergie, et j'ai été dirigeant de société d'énergie, concernent un projet qui a le rendement d'une centrale classique. Or, comme vous l'avez bien dit, une éolienne aujourd'hui, c'est, selon les statistiques du syndicat des énergies renouvelables lui-même, Monsieur Lanoë, dont je cite ces chiffres, le rendement actuel avec les statistiques officielles RTE, les réseaux de distribution, RDF, etc., c'est 21%. Je cite les chiffres du CER. Donc, on compare un projet qui produit seulement à 21% de l'énergie avec un projet qui produit à 95% de l'énergie. Donc, c'est un cheval, une alouette. Il est évident, dans ce cas-là, le prix de 82 euros ne tient pas la route. D'autant plus qu'une éolienne ne tournant en moyenne qu'un jour sur cinq, il faut pendant l'autre temps des centrales qui viennent relever la carence du vent ou du soleil et qui assurent qu'on ne peut pas couper un hôpital 4 jours sur 5. Il faut bien qu'on produise de l'électricité pendant ce temps-là. Et ces centrales, il faut les construire parce que sinon les réseaux sont désorganisés. Donc il faut inscrire aussi le coût de substitution de ces centrales pour arriver à un éolien de qualité.
D'accord.
Je mentionne en plus, je ne suis pas un adversaire de l'éolien, je tiens à le préciser. Je suis pour les énergies renouvelables. Ce serait un non-sens que d'être contre.
D'accord.
Il ne faut pas nous diaboliser.
D'accord, on va s'arrêter là pour commencer parce que le débat est complexe. Anne-Laure Chouin, oui.
Oui, pour être très concret, combien ça coûte une éolienne à mettre en place, un champ d'éoliennes à mettre en place et combien ça rapporte. D'abord Monsieur Grandjean, oui.
Oui, un champ d'éoliennes, parce que des fois on se rend compte qu'on est un peu plus professionnel que nos interlocuteurs. Alors on va voir les projets sur le terrain, on se rend compte qu'aujourd'hui, si vous voulez, d'abord on constate souvent que les coûts d'investissement qui sont annoncés sont très variables. Il faut savoir aussi que dans la rentabilité des installations éoliennes, vous avez beaucoup de défiscalisation. J'ai remarqué que dans les commissions du syndicat des énergies renouvelables, il y avait énormément d'avocats fiscalistes, par exemple, qui sont spécialisés dans les aubaines fiscales. Et ça, bien sûr, on ne l'intègre pas dans la véritable rentabilité des parcs éoliens. Donc, on peut parler, disons, grosso modo, de 2 à 2 millions et demi d'investissements par éolienne. Et quand on fait le retour sur investissement, il faudrait intégrer ça. Et je parlerai aussi du sous-marin que personne ne cite, qui est la revente de certificats d'énergie, dont la comptabilité est purement mystérieuse et qui sont de véritables permis de polluer, puisque chaque éolienne construite permet de revendre des certificats d'énergie à une usine de plastique en Indonésie ou à une mine de plomb au Chili qui va pouvoir continuer à polluer.
Allusion au processus de Kyoto, c'est vraiment déjà assez compliqué comme ça, mais c'est vrai, ces énergies propres permettent à certains pays qui rachèteraient effectivement ces permis de polluer, de polluer avec des énergies normales. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Vous avez dit tout à l'heure, et ça me semble assez intéressant, vous avez fait quand même aussi allusion au fait que ce soit une énergie intermittente, Monsieur Grandjean. Donc je me tourne vers Damien Maton. Qu'est-ce qu'on a à dire de ça? C'est vrai que les éoliennes ne produisent que 12-20% de leur temps.
Alors là, on est dans le poncif habituel parce qu'une éolienne, ça tourne 80% du temps, mais ça tourne 21 à 25% du temps équivalent pleine puissance. Donc on prend l'équivalent pleine puissance et on a ce facteur de charge de 25%. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que on a trois régimes de vent en France. Trois régimes de vent décorrélés. C'est-à-dire que, évidemment, si vous raisonnez à l'échelle d'une éolienne, vous voyez beaucoup d'intermittence. Si vous raisonnez à l'échelle d'un parc éolien dans une région française, vous voyez un peu moins d'intermittence, mais une certaine variabilité. Et si vous regardez à l'échelle du pays, vous voyez une stabilité de la production qui est liée au fait que quand ça tourne pas à un endroit, ça tourne à un autre, et vice-versa, puisque les régimes de vent sont décorrélés.
Alors, à propos du vent, donc on a écouté en début de reportage, il y a des opérateurs de maintenance qu'on a rencontrés qui nous ont fait le constat que ici, bon, il y avait des éoliennes, mais il n'y avait pas de vent. Donc on peut se poser la question. Par ailleurs, moi j'ai pu rencontrer Monsieur Mouratoglou, comme je l'explique dans le reportage, qui me dit qu'en termes de gisement de vent, la France, soyons honnêtes, ce n'était pas un pays où il y avait tellement de vent qu'on puisse implanter des éoliennes un peu partout.
Damien Maton.
Oui, alors c'est un débat intéressant parce que on peut pas à la fois reprocher aux opérateurs de gagner beaucoup d'argent et d'expliquer que il y a absolument pas de vent en France. Les facteurs de charge annuels sont donné par la Commission de régulation de l'énergie, d'ailleurs. On est en France sur un équivalent facteur de charge de 2000-2200 heures. C'est dans les rapports de la Commission de régulation de l'énergie. Ce qui conduit d'ailleurs à une rentabilité moyenne avec ce facteur de charge de 5%. Alors effectivement, il y a des pays où c'est bien meilleur. Effectivement, au Brésil, par exemple, dans l'Atlas marocain, vous pouvez avoir des facteurs de charge bien meilleurs et donc un coût de production encore moindre. Mais la France est un pays où on peut tout à fait trouver des gisements éoliens intéressants.
D'accord.
Alors, Ludovic Grandjean, votre point de vue là-dessus, on a dit effectivement qu'il y avait des bureaux d'études qui devaient forcément, avant toute implantation de parcs d'éoliennes, montrer si oui ou non il y a du vent dans les régions où il risque d'y avoir des parcs. Est-ce que ces études sont bien faites? Est-ce que vous dénoncez aussi ces bureaux d'études-là?
Écoutez, je représente un certain nombre de professionnels de l'énergie qui sont un peu énervés par la caricature qu'on nous propose, notamment sur l'éolien. Donc je vais répondre très franchement et très directement. Aujourd'hui, on a réussi à faire croire aux Français que le seul modèle éolien, ce sont ces vieux procédés d'éoliennes géantes à trois pales. D'abord, c'est entièrement faux. Il existe au moins cinq autres inventions qui ont des rendements d'ailleurs bien meilleurs que les éoliennes à trois pales. Je citerai notamment la turbine de l'ingénieur français Darieux, qui est le meilleur succès des brevets français aux États-Unis depuis 1928. Je citerai aussi le procédé Malavar d'un membre de l'Académie des sciences qui avait été mis en valeur par le commandant Cousteau. Donc, ces éoliennes ont un rendement qui est environ deux fois supérieur, et y compris en plage de démarrage, à celui d'une éolienne classique. Je vous signale qu'à 10 mètres secondes, une éolienne fait à peine tourner quelques machines à laver, parce que le rendement n'est que dans une plage très modeste, et elles doivent s'arrêter à 55 km/h. Le département des énergies renouvelables d'Écosse, qui est le pays le plus vanté, et avec à sa tête le plus chaud partisan des éoliennes d'Europe, a démontré que même en couvrant l'Écosse d'éoliennes, il ne serait capable de capter que 30% du vent existant en raison de turbulences, en raison d'un tas de facteurs qui font que ces procédés d'éoliennes à trois pales ne sont pas viables. Le deuxième point, c'est que l'intermittence des éoliennes fait aussi que si on constate les statistiques fournies par les distributeurs réseaux officiels, c'est-à-dire ceux qui distribuent l'électricité en France, les gestionnaires de réseaux, on constate aussi que si les éoliennes tournent un certain temps dans l'année, c'est pas nécessairement au moment où on a besoin d'électricité. Donc, effectivement, elle produit de l'électricité à certains moments, mais ça n'est pas en adéquation avec le réseau. S'il y a du vent avec un week-end et qu'il n'y a pas de demande d'électricité, eh ben, ça sert à rien de produire de l'électricité ce week-end. Là.
Et donc, là, l'électricité est quand même rachetée, effectivement, et ça produit des perturbations, selon vous, qu'on en produise
bien
plus
sûr,
d'un
on
coup,
produit l'électricité pour la jeter, c'est ce qu'il fait aux États-Unis. Les réseaux, on ne parle pas aussi dans le surcoût du renforcement des réseaux. J'insisterai, par exemple, sur le projet que vous avez cité à Lavoine, il y a eu quand même un trou noir qui a duré avec des pannes intermittentes pendant 8 jours, si vous voulez que je donne des précisions. Donc, vous avez des incidents. Le gestionnaire est obligé de passer une annonce en catimini dans le journal pour qu'un électricien vienne rebrancher le disjoncteur en cas d'orage. J'ai gardé, bien sûr, la petite annonce, qui est quand même savoureuse. Donc, vous avez un bricolage qui se fait au cours de ce procédé. On a une gigantesque campagne de communication. Moi, je dirais quand même qu'il est extrêmement regrettable, en tant que professionnel, qu'on joue avec l'espoir des gens. Vous avez dit, fort justement, remplace le nucléaire par l'éolien, mais pourquoi pas? Il n'y a pas d'énergie parfaite. Je répète, je suis un chaud partisan de l'énergie éolienne. Mais c'est une honte que de présenter sur l'espoir des gens une telle caricature, alors qu'il y a des machines. Il y a un projet de 800 éoliennes en Californie, en ce moment, les éoliennes ne font pas plus de 20 mètres de haut, elles ont une plage de fonctionnement du double.
Donc ça veut dire
les Jeux Olympiques,
il y a des progrès techniques qu'on peut faire. Monsieur Grandjean, je vous arrête une minute pour passer quand même la parole à Damien Maton, qui représente donc les industriels du secteur.
Non, mais si Monsieur Grandjean a des idées sur la technologie, c'est tout à fait intéressant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que effectivement, de toute façon, il y aura des progrès sur les machines, et c'est bien vrai pour l'ensemble d'ailleurs des technologies renouvelables. Moi, je voudrais juste rappeler que les technologies standard qu'on installe aujourd'hui en France, c'est les technologies qu'on installe partout dans le monde. Et je voudrais quand même rappeler que les énergies renouvelables sont les premières installations de production d'électricité installées en 2013. 60% de l'ensemble des capacités installées en 2013 viennent du renouvelable et en grande partie de l'éolien. Donc je ne suis pas convaincu que le monde entier se trompe pendant que certains estiment que l'éolien n'est pas une bonne solution.
Simplement, on va parler peut-être un petit peu d'emploi, parce que la filière est vendue comme créatrice d'emplois. On a entendu plusieurs fois dans ce reportage le chiffre de 10 000 emplois. Alors, peut-être question annexe, en tout cas, pas d'emploi dans la construction d'éoliennes, puisque la plupart sont achetés à l'étranger. Alors
Damien Maton, il y a évidemment, beaucoup d'emplois dans la construction d'éoliennes. Pourquoi? Parce que les assembliers sont généralement étrangers, c'est vrai, danois ou allemands, mais ils assemblent des composants qu'ils vont acheter sur le marché des composants. Et parmi ces composants, il y a une offre française. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a énormément de pièces, et on sait tout à fait le démontrer, il y a énormément de pièces de chaudronnerie, d'électronique de puissance, de mécanique, de fonderie, qui rentrent dans l'assemblage,
dans la composition
d'une éolienne, et qui viennent de PME, PMI françaises.
Alors, Monsieur Grandjean, vous vous avez un chiffre de 650 emplois créés seulement, à opposer aux 10 000 qu'annonce le gouvernement et Monsieur Maton aussi. Donc, comment expliquez-vous cet écart ?
Écoutez, j'ai aussi fonctionné en tant qu'expert dans la normalisation. Moi, je voudrais d'abord simplement, comme tout bon statisticien, demander quel est l'organisme qui prouve ces emplois créés. Est-ce que Pôle emploi service, est-ce que le ministère du Travail les garantissent ? Je n'ai jamais vu de garantie de telle source. J'ai vu aussi que des fois, on comptait des CDD de 6 semaines du bâtiment travaux publics pour des emplois fixes. On ne compte jamais les départs. Des gens qui sont à la fois sur le solaire et l'éolien peuvent être comptés deux fois. En tout cas, ce sont des questions que je me pose. J'ai essayé de faire un décompte honnête des gens qui ne sont ni intermédiaires financiers, ni cabinets de relations publiques, ni délégataires de puissances étrangères, et j'ai trouvé 650 vrais techniciens. Et en tout cas, nous aurions intérêt à nous mettre autour de la table et à trouver un organisme tiers qui soit irréfutable et qui nous prouve l'origine de ces emplois. Je constate d'ailleurs qu'au cours de l'entretien de M. Lanoé, il a cité 3 chiffres différents sur les emplois créés, 8000 emplois, 9000 emplois et 10000 emplois en 5 minutes. Donc la contradiction est elle-même dans ces termes. Je pense pas qu'on ait une rigueur extrêmement puissante à écouter son interview. Ça me laisse plutôt perplexe.
Oui, enfin 650, on est quand même vraiment très 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 loin des 10 000. Hein. On a bien compris que vous étiez allé chercher dans les statistiques et regarder de près, mais Monsieur Maton, j'imagine quand même quelque chose à répondre.
Bah écoutez, les études ont été réalisées par des cabinets indépendants plusieurs fois, donc effectivement, on peut contester ad vitam aeternam ces chiffres, mais l'ADEME a fait les études, nous-mêmes avons conduit des études avec des cabinets extérieurs
indépendants. En même temps, on peut quand même s'attendre vraiment à ce qu'il y ait une vraie filière qui soit construite en France. Enfin, c'est vrai qu'on a des géants, enfin, on construit Airbus, il y a beaucoup d'ingénieurs à Toulouse, on aurait pu construire des éoliennes en France.
Non, mais effectivement, on peut espérer, et d'ailleurs, la filière offshore à cet égard-là, et aussi pleine de promesses, avoir davantage d'assembliers. Mais encore une fois, il y a beaucoup de valeur ajoutée dans la fabrication des composants et ça nous paraît déjà essentiel. Ensuite, il y a les emplois de développement, de construction et ensuite les emplois de maintenance.
Alors un mot peut-être...
Une rectification que je tiens à apporter, c'est que même au niveau des emplois du secteur global de l'éolien, je mentionnerai par exemple que Vestas, qui est le leader de l'éolien, qui a plusieurs centaines d'éoliens en France, a perdu 4500 emplois dans les 18 derniers mois, qu'il a disparu en catastrophe de la bourse de Copenhague alors qu'il en était une des 10 plus grandes entreprises, et qu'il en était de même à peu près du tiers des entreprises allemandes et également du quart des entreprises danoises. En Grande-Bretagne, la filière s'est également effondré. Donc en matière de création d'emplois, on est fin du modèle. Les constructeurs allemands utilisent énormément de licences chinoises et qu'il y a énormément de pièces chinoises, au tel point que l'administration américaine a déclenché une enquête de concurrence sur ce point, notamment sur les tours d'éoliennes. Et le dernier point également, c'est que toutes ces filières qui étaient censées créer des emplois sont aujourd'hui en solde négatif. Donc j'ajouterai aussi sur les composants une chose que les milieux disons amoureux des énergies renouvelables ne savent pas assez. C'est que la construction d'un moteur d'éolienne parce qu'elle est sous-traitée en Chine engendre 1,4 tonne de déchets radioactifs via les lanthanides qu'on est obligé d'incorporer dans les moteurs. Ces matériaux qu'on appelle les terres rares. Je cite mes sources, c'est un site comme Novetic par exemple qui est irréfutable et qui travaille sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui a fait un très long dossier sur ce thème.
Mais juste donc, alors d'un aussi... mot, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission, mais oui. Monsieur Grandjean, est-ce que du coup il faut en rester aux énergies fossiles et au nucléaire, c'est quand même la question que tout le monde se pose.
Moi je reprends vos propos, je pense qu'il est tout à fait dommage de proposer aux consommateurs français une caricature d'énergie renouvelable alors que nous sommes en pointe, que le commissariat à l'énergie renouvelable, qui a maintenant cette nouvelle charge, montre que nous avons extrêmement d'expertise et de savoir-faire dans ce domaine, comme vous l'avez dit, au pays d'Airbus, au pays du TGV, avec en plus les meilleurs électriciens mondiaux, nous sommes tout à fait capables de construire un éolien de deuxième génération qui n'est pas cet éolien de vieilles hélices à 3 pales d'un rendement épouvantable.
On a bien compris.
Le projet oui. Windit de la Caisse des dépôts, primé au niveau mondial, qui à lui seul fait plus que tout le programme éolien français, oui. Qui est dans les tiroirs
Monsieur
depuis
3 ans. Je suis obligée de vous couper, mais je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Un tout dernier mot peut-être de Monsieur Maton. Est-ce qu'on demain, on peut avoir un parc éolien qui ne soit plus subventionné? Est-ce que ça va marcher?
Bien sûr, mais la filière en France n'a que 10 ans.
Donc vous espérez des améliorations. Merci d'avoir été en studio avec nous, Anne-Laure Chouin. Vous signez Éoliennes en France, vent contraire sur le marché de l'air. C'était le magazine de la rédaction réalisé par Meta Chiteya. À la technique ce soir, Alexandre Dang. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an. Trouvez des bonus sur notre site, mis en ligne par Théo Manval.
C'était une rediffusion du magazine du 31 octobre 2014.